J'ai le grand plaisir de vous présenter, mais elle se présentera elle-même. Je crois que c'est important qu'elle le fasse en introduction. Violaine Monroe. Violaine est arrière-petite-fille de l'écrivain, d'Émile Zola. Elle est la fille de quelqu'un que j'ai beaucoup connu, beaucoup aimé, et que nous avons tous beaucoup aimé, Françoise Leblanc-Zola, qui était une grande dame, qui défendait une tradition intellectuelle avec beaucoup de force, de rigueur. Elle était la sœur de Jean-Claude Leblanc, qui lui aussi a disparu. Voilà, hein, c'est donc dans cette tradition familiale que s'inscrit Violaine, mais qui va vous en parler un peu plus que je ne peux le faire. Et j'ai vraiment trouvé très intéressante l'idée qui a surgi au cours de dialogue que nous avions entre nous, de revenir sur ces documents que possède Violaine, et notamment sur une correspondance que personne n'a lue, au fond, qui est absolument inédite, une correspondance extraordinaire entre Alexandrine et Denise. Hein, Alexandrine, Denise, la fille de Zola. Cette correspondance est très longue, comme vous le dira Violaine, de 1904 à 1925. Et vraiment, je le suis très, très reconnaissant de ce travail de relecture, de piété familiale et en même temps de recherche intellectuelle qu'elle nous propose aujourd'hui. Et c'est avec une grande joie que je l'accueille au séminaire. Violaine, je te laisse la parole.
Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire que je suis très, très heureuse d'être là. Que ça fait longtemps que je voulais y revenir parce que je connaissais un petit peu dans ses débuts, que maman est venue très très régulièrement et assez âgée, et que je me propose, parce que je suis libérée maintenant de mes vendredis, donc de revenir vous écouter dès le prochain séminaire, vraiment d'être là le plus régulièrement possible. Alors, je vais essayer de me présenter. Donc, c'est donc avec bonheur hein, que je me suis mise à la lecture. Quelquefois, je n'avais pas fait vraiment une lecture et quelquefois une relecture de certaines des lettres d'Alexandrine à la demande d'Alain. Et je suis vraiment très reconnaissante de m'avoir conduite à vous faire ce travail de présentation pour reprendre le titre qu'on s'est proposé d'un regard familial sur cette correspondance inédite d'Alexandrine à Denise. Alors bon, évidemment, je suis arrière-petite-fille d'Émile Zola par maman, Françoise Leblanc-Zola, elle-même seconde fille de Denise, qui eut Aline et son frère Jean-Claude, et je suis donc cousine de Brigitte et de Martine, que les deux vous connaissez bien. Donc, ma mère est décédée en 2005, et elle repose aujourd'hui dans la sépulture du cimetière Montmartre, où se trouvent Alexandrine, Jacques-Émile Zola, Marguerite et François, le père de Brigitte. Elle fut professeure de lettres classiques, très attachée aux humanités grecques et latines. Elle se maria avec mon père Jacques Lemont, qui lui fut présenté par Marguerite et sa tante, Marguerite-Émile Zola, qui avait remarqué mon père comme un brillant orateur au Parti radical et dans les mouvements de la paix que fréquentaient Aragon et Elsa Triolet. Ma mère parlait d'Alexandrine avec beaucoup de respect et d'affection. Même elle en a souvent parlé. Elle l'a connue enfant, étant née en 1911, et elles ont échangé une petite correspondance. Et dans ses lettres à Denise, Alexandrine l'appelle l'amour, avec un grand A. C'est le nom qu'elle lui donne. Ma mère m'a aussi transmis son goût pour la littérature, pour l'enseignement. Mais après avoir obtenu mes diplômes de lettres, j'ai été curieuse de découvrir d'autres domaines. Alors j'ai saisi une occasion qui s'offrait à moi d'être 5 ans chargée d'études juridiques en urbanisme, c'était la politique de restauration des quartiers anciens, et ensuite d'être 6 ans dans la cellule marketing du groupe industriel Philips, au siège social de l'avenue Montaigne, chargée de communication et de formation. Et puis, je me suis mariée donc à Thierry Monroe, et j'ai été la mère de 2 garçons, et alors j'ai retrouvé l'enseignement du français et latin au lycée et collège de Pontoise de 1986 à 2016. J'ai aussi eu la chance d'avoir pour beau-père le sociologue et essayiste Jules Monroe. Il est décédé en 1995, il a été connu pour ses ouvrages qui sont parus chez Gallimard, qui s'appellent « La poésie moderne et le sacré » en 1945, un gros volume qui est « Sociologie du communisme » en 1949, « Les lois du tragique » en 1969, et bien d'autres ouvrages. Il a fréquenté les surréalistes, Il fut résistant de 1940 à 1945 dans le réseau qui s'appelait Ceux de la Libération, qui était un des 8 plus grands réseaux. Il était admirateur de Zola et je me suis tout de suite sentie adoptée par la famille Monroe. Donc, je vais vous présenter ce travail. En fait, les lettres que nous allons relire ensemble, parce que je vais beaucoup, beaucoup vous les citer, à travers donc, le regard subjectif d'une arrière-petite fille de Zola, ces lettres vont du 12 juin 1904, c'est la première que j'ai, hein, bien sûr qu'il y en a eu d'autres avant, pendant, après. Alexandrine a 65 ans et Denise a 15 ans. Jusqu'au 19 avril 1925, Alexandrine a 86 ans et Denise 36 ans. Donc, on va voir tout le parcours. La première commence par « Mon petit enfant chéri » et la dernière par « Ma chère Denise, j'ai reçu ta bonne lettre hier soir ». Presque toutes ces lettres sont adressées à Denise et certaines aux deux enfants. Et l'une que j'ai à la mère de Maurice Leblond, qui était donc le mari de Denise. Si l'on m'invite à livrer un regard familial, eh bien, voilà ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'ai été bouleversée par la volonté de transmission d'Alexandrine. Alexandrine, à la fin de cette lecture, que je n'avais jamais faite vraiment, m'est apparue à l'origine de la construction de notre famille. Très vite, elle va se charger de la transmission culturelle portée par son immense, enfin sa forte affectivité. Transmission des relations avec des personnalités de l'époque, qu'on va citer. Transmission d'une éducation bourgeoise raffinée, la couture, la broderie, le piano, la peinture dans l'atelier de Desmoulins. Alors, j'ai retenu d'abord, pour vous annoncer un petit peu le plan, comment Alexandrine s'explique par sa motivation première. Je ne veux pas dire se justifie, mais enfin, elle s'explique. Dans sa lettre du 29 janvier 1907, « Votre père se continue en vous ». Je reprendrai la citation avec le complément. Comment, puis je me suis arrêtée, comment elle réussit par son immense tendresse et générosité à devenir éducatrice, tantôt mère, entre guillemets, sans écarter jamais, nous le verrons. Puis, belle-mère, elle va être l'initiatrice du mariage de Denise et Maurice, puis grand-mère. J'ai donc regroupé la lecture de ces lettres selon deux axes. La transmission familiale et le deuxième, une sorte de journal de bord des événements littéraires ou plus historiques de cette période de 1904 à 1925. Mais tout d'abord, avant de commencer ce premier axe, ce qui m'a frappé, ce que je voudrais dire, ce qui m'a frappé, c'est l'écriture au sens du graphisme et du style très personnel d'Alexandrine. Une aïeule. On voudrait la connaître charnellement. On voudrait la toucher. Et que nous reste-t-il d'intime d'elle? Sinon, cette belle écriture qui s'écoule avec une fluidité surprenante pendant plus de 20 ans. J'ai retenu, alors là c'est professeur un peu qui parle, j'ai retenu une mise en paragraphe très soignée, alors qu'elle écrit quand même très très vite, une ponctuation très très marquée, très présente par des points-virgules, on en utilise plus longtemps que ça, et par des virgules. Une orthographe rigoureuse quand il s'agit des accords de participe passé, mais plus fantaisiste pour des mots comme philosophie, qu'elle va écrire PHY, ou bien des mots oubliés, il y a des mots qu'elle oublie, car elle écrit très vite. L'écriture est très penchée en avant et sans courir sur le papier à lettres, qui est toujours liseré de noir jusqu'à la fin de sa vie. Alors, des études, des livres qui ont été faits sur le statut de la veuve au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'épouse prend le statut de veuve après la mort de son époux. Et elle a pour mission de préserver l'espace familial, d'assurer sa survie. Alexandrine a donc ce statut, cette mission, selon les codes du XIXe siècle. La femme au XIXe siècle va porter le deuil pendant 2 ans et elle va le porter jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on voit avec ce papier, c'est ce qu'on voit avec son écriture, enfin son style, c'est ce qu'elle dit. Mais j'ai également retenu le style dans cette écriture, qui est souvent très enjoué, très spontané, très drôle, avec des expressions comme, pour revenir sur son style, « un temps à gifler », dit-elle. Je n'avais jamais connu cette expression. Voilà, donc nous reviendrons sur son style. Mais je vais d'abord vous parler donc de la transmission familiale et plus encore des étapes de la construction de la famille. Préserver l'espace familial pour Alexandrine, il me semble que c'est plutôt créer l'espace familial désolant. Les deux enfants étaient adultérins et on sait très bien que la législation était encore à peine commençante pour remettre les enfants adultérins dans un statut vraiment honorable. Alors, dès le 12 juin 1904, apparaît et voit se succéder, c'est la première lettre, hein, le 12 juin 1904, vont se succéder les conseils, la sollicitude, les baisers ou les réprimandes. Cette lettre se termine ainsi. Elle est du 12 juin 1904. Au revoir, ma Lisette aimée. Je t'embrasse, ton Jacques, ta maman, Jeanne Rosereau, comme je t'embrasse tendrement, avec toute l'effusion de mon cœur. Alors, ce mot effusion m'a touchée, car avec son étymologie latine, il rend bien cette immense tendresse qui se répand tout au long des lettres. Alexandrine va donc jouer son rôle d'éducatrice. La lettre du 4 novembre 1904 commence ainsi. « Ma bonne et chère mignonne. » Ces lettres, les lettres d'Alexandrine jusqu'à la dernière en 1925, commencent toujours par cet élan de tendresse. « Ma bonne chérie, mon petit enfant chéri, ma chère mignonne, ma petite Lisette chérie. » Et même « Adorable petit monstre » pour une réprimande le 30 décembre 1905. Mais j'ai d'abord retenu la motivation première d'Alexandrine, la motivation profonde, c'est son amour pour Zola. Elle va construire cet espace familial à partir et pour continuer la volonté, en fait elle retrouve aussi un statut aux côtés de Zola. La première citation que j'ai retenue, c'était le 14 octobre 1905. Donc là, j'ai retenu des passages de lettres où apparaissent son immense tendresse pour son immense amour. Donc, 14 octobre 1905. Cela m'est si doux d'honorer ainsi la mémoire de votre pauvre papa et de vous faire voir combien je l'aimais. Il est donc tout naturel que je reporte sur vous toute la tendresse de 38 années de vie commune avec lui. Et le 29 octobre 1907, depuis le palais de Monaco, où elle est reçue par le prince Albert Ier, comme elle avait déjà été reçue avec Zola, elle écrit « Votre père se continue en vous. Et il a tellement été tout dans ma vie que plus rien n'a jamais compté depuis le jour où je l'ai connu. » Le 11 juillet 1906, la veille où la Cour de cassation va prononcer l'arrêt de réhabilitation et de réintégration donc de Dreyfus et de Picard, elle parle de cet événement, on y reviendra, mais elle dit « Votre pauvre et cher papa qui aurait bien mérité d'assister à ce triomphe. » Le 23 juillet 1906, en vue de la panthéonisation, elle vibre avec Denise. Quand Denise lui écrit, voilà ce qu'elle lui dit, « Ta pensée qui avait senti comme moi un déchirement profond en songeant que l'on allait nous enlever votre cher papa. Tu n'as pas idée, ma fillette chérie, Denise a 17 ans. combien ta réflexion m'a été au cœur. La lettre est très longue, donc je ne vais pas tout dire. Le 29 août 1906, Alexandrine, à la demande de Fasquelle, regroupe les lettres de jeunesse de Zola. Et on voit encore par son travail assidu l'amour qu'elle lui porte. Voilà ce qu'elle dit. « Je pioche terriblement pour la copie des lettres de jeunesse de votre cher papa, car je n'ai pu en faire que très peu au Mont d'Or, où elle fait une cure. » Le 2 février 1907, donc elle est à Monaco, dans le palais du prince Albert, son Altesse m'a parlé de votre cher papa. Je lui ai parlé de vous. Cela allait de soi. En 1907, toujours la même lettre, je suis de plus en plus ravie du prince. Je découvre en lui des qualités admirables. Et je comprends bien toute l'admiration de votre cher papa pour lui. Donc on sent que c'est une transmission, c'est-à-dire qu'elle transmet à chaque fois cet amour, cette tendresse qu'elle a pour leur père. Alors, Alexandrine va s'efforcer d'être l'éducatrice donc de Denise et aussi de Jacques. Depuis Denise à l'âge de 15 ans jusqu'à 36 ans, en 1925. Alexandrine, donc, va aller de 65 à 86 ans. C'est d'abord l'éclosion de cette jeune fille qui est ma grand-mère. Son éducation, ses débuts dans la vie, ses premiers émois, son mariage et ses maternités apparaissent. C'est vraiment, pour cette grand-mère, le portrait d'une jeune femme du début du siècle, 1904. Une époque charnière, la femme se transforme. Tout d'abord, l'éducation de la jeune fille. Ce sont les félicitations pour des travaux d'Émile, auxquels Zola attachait beaucoup d'importance, dit-elle. Et puis, l'amusement d'Alexandrine, et on va voir de Bruno après, pour une algarade, c'est son mot, avec son professeur au sujet de Jeanne d'Arc. Le 4 novembre 1904, Denise a 15 ans, elle lui dit: Bruno s'est amusé de cette conversation un peu libre que tu as, mais tu sais te tenir très demoiselle en ton temps. En 1905, elle lui dit: certainement, tu ne feras jamais bon ménage avec ton professeur. Il s'agit de cette algarade. Cependant, lorsque tu vas retourner à ton cours, qui sait si tu ne le trouveras pas charmant. Un peu plus tard, puisque tu me permets des observations, tant que je ne suis pas près de toi, j'en use. Tu vois que je ne te trompe pas sur les braves cœurs. Lorsque je te dis ceux qui méritent ton amitié, tu peux me croire, je ne te ferai jamais user de trop de politesse avec les indifférents. Et puis, elle donne des conseils pour les études. Lettre du 14 octobre 1905. Tâche de ne pas t'abrutir tant que cela sur l'allemand. Alors, c'est toujours amusant de retenir les mots d'Alexandrine. Et pour le travail de Jacques, elle lui dit, dans la lettre du 5 octobre, Denise a 18 ans et elle est l'aînée. Il faut pour Jacques reprendre un répétiteur d'allemand. Elle donne à Denise des principes moraux. Dans sa lettre du 15 novembre 1905, je connais ton cœur qui renferme une grande bonté. Ce n'est pas en vain que tu es la fille de Zola dont la bonté était sans fin. Et surtout dans sa lettre du 24 novembre 1905, le travail est la consolation de tous les maux, de toutes les tristesses. On retrouve bien sûr Zola et ses principes. Dans sa lettre du 24 août 1906, elle lui fait un reproche par le moyen d'une petite fable qu'elle invente. On sait qu'elle appelait Denise Poulette, et là on retrouve notre Alexandrine un peu des quartiers populaires, et elle appelait Jacques Coco. Alors voilà ce qu'elle raconte. Denise et Jacques sont alors en Bourgogne, avec Jeanne Roseron, dans le pays de leur mère. Elle raconte: j'ai appris qu'en Bourgogne, il y a de vilains poulets qui mangent les cartes postales qui doivent arriver à de gentils cocos. Si tu en rencontres, fais-leur la chasse à ces méchants poulets, car toi, tu en es incapable. C'est indigne, n'est-ce pas? Donc on croit comprendre que Denise a dû intercepter, prendre, je ne sais pas, une lettre pour son frère. C'est le style d'Alexandrine qui revient souvent, très coloré comme ça. Alexandrine, comme toutes les mères en cette fin du 19e siècle, pense à Marie-Denise. Ça va venir très vite parce que dans sa lettre du 29 juillet 1905 seulement, mais déjà, Alexandrine désigne implicitement un parti possible pour Denise. Elle commence à penser. Elle parle de Maurice Leblond. Maurice Leblond a fait...
Denise la... qui a 15 ans, je crois. En 1905, elle a 16 ans, et donc, très vite,
Maurice Leblond a fait la semaine dernière une conférence sur votre cher papa, à Montluçon. Ce soir, il en fera une à Saint-Amand à la Bourse du Travail. Monsieur Mesureur a accepté de parler. Je crois qu'il y aura quelques discours. Ce brave et excellent Maurice Leblond, lui aussi, adorait votre père. N'oubliez jamais, dit-elle à Denise et Jacques, n'oubliez jamais le nom de ce jeune homme plein de cœur et d'admiration. Peu à peu, Alexandrine va encourager Maurice Leblond, l'inviter à déjeuner, etc. Et lui écrit. L'idée a dû lui venir, mais à quel moment ? Ça n'apparaît pas, je n'ai pas toutes les lettres. Alexandrine bientôt prépare les fiançailles. Nous sommes le 2 juillet 1908. Voilà ce qu'elle lui dit. Maurice me quitte et, comme toujours, a été très affectueux. Je lui ai remis ton petit cadeau qui a eu l'air de lui faire très plaisir. Il vient de me demander quelles sont les pierres que tu aimes pour la bague et si tu attaches une pensée. Je lui ai répondu que, comme tu ne voulais jamais t'arrêter aux devantures, que j'ignorais complètement tes goûts et que même si je les connaissais, je ne lui dirais pas, certaine que je suis, que la bague, quelle qu'elle soit, ne te plairait pas. Autant, sachant que j'y suis pour quelque chose et qu'il valait mieux pour toi qu'il la choisisse selon son goût personnel. Elle rajoute, dis maintenant que je n'observe pas avec religion les ordres que l'on me donne. Et puis, Alexandrine s'occupe du mariage. Elle s'occupe de la robe de mariée et elle est très fière. Donc, Denise lui demande, tu m'as privé d'aller acheter les souliers de mariée. Tes souliers de mariée. Bon, on est donc dans la préparation. Un peu plus tard, le 15 août 1910, elle va être très attentive aux maternités de Denise. La nouvelle d'un petit frère à Linette, donc sa première fille à l'aînée, n'est pas mauvaise, mais un peu trop tôt. De combien serais-tu grosse, car si tu... Mais un peu trop tôt. De combien serais-tu grosse, car si tu as encore 6 mois devant toi, Linette aurait fait beaucoup de progrès. Et puis, beaucoup plus tard, enfin 1916, 24 décembre 1916, Jacques rencontre Marguerite Brugnon. Elle dit à Denise, tu as bien dit à Jacques, à Mademoiselle Brugnon, que nous comptions sur sa présence près de nous. Jacques va donc se marier, Jacques et Marguerite se marient le 5 février 1917. Le 14 janvier 1917, j'ai reçu hier de vives félicitations à transmettre à Jacques. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il m'a touché beaucoup, sont les relations avec Jeanne Roseraud et avec la mère de Maurice. Alors, la mère de Maurice, c'est Marie-Cécile Leblond, qui est née en 1850 et qui est morte en 1935, à 85 ans, et qui est veuve d'un ingénieur depuis 1883. Et bien voilà ce qu'elle écrit le 1er août 1907 à Marie-Cécile Leblond. Et je vous aime, vous, chère madame. Donc c'est avant le mariage, elle prépare les relations. Et je vous aime, vous, chère madame, qui avez su donner tant de tendresse dans l'âme de votre enfant, qui s'en sert avec tant de générosité. Et alors moi, je retrouve tout le temps, la tendresse, la générosité sont les deux mots-clés d'Alexandrine. Elle va tisser des relations entre les mères des fiancés, Jeanne Roseraud et Madame Leblond. Elle dit à Denise, ce 2 juillet 1908, « J'écrirai à ta mère ce qu'elle m'aura dit, en plus de ce que je sais par son fils. Je dois voir Madame Leblond tout à l'heure. » Et puis, j'ai retenu l'extrême délicatesse avec Sandrine durant toute la préparation du mariage, et toujours dans ses relations. Puisque ta mère, le 11 août 1908, puisque ta mère et toi ne croyaient pas que vous serez trop gênés par ma présence à Berck en même temps que celle de Maurice, parti ce matin comme un gamin en rupture de collège. Eh bien, je vais m'arranger de façon à partir vendredi matin. Le 28 août 1908, elle s'attendrit sur Madame Leblon. Sa mère, la pauvre femme, a trottiné pendant 8 jours. Elle est venue le soir du départ de Maurice, à 9h du soir, m'annonçant qu'elle partait le lendemain matin à Saint-Cloud. Mais un autre passage important, le 8 décembre 1908, elle dit à Denise, comme nous sommes trois, c'est-à-dire Jeanne, Alexandrine et Madame Leblon. Comme nous sommes trois à recevoir de vos nouvelles, nous vous en donnons réciproquement. Donc on voit combien le réseau, les liens se sont construits. Mais le 22 mai 1914, c'est la mort de Jeanne Rosereau après une opération. Les suites de l'opération n'ont pas réussi. Je n'ai pas les lettres de cette période et bien sûr toutes les lettres à Denise qui se terminaient toujours par mes amitiés à ta maman, embrasse ta maman, c'est bon, eh bien évidemment vont se transformer, mais je n'ai pas cette période. Le 31 octobre 1914, donc quelques mois après cette mort, elle parle de Madame Leblon. Nous avons fait la paix avec Madame Leblon sur mon sale caractère et sur le sien, qui est mauvais. Nous pouvons nous redire ces choses les plus aimables et sans rancune. Voilà. On retrouve donc la personnalité assez très affirmée d'Alexandrine. Le 22 février 1916, je reçois un mot de Bruno me disant que je trouverai une place dans sa loge pour que tu viennes avec Madame Leblon. Et j'ai 1er août 1922, Alexandrine a 83 ans. J'ai lu hier Madame Leblon. Je croyais qu'elle allait me dire que le petit Jean était débarrassé de son abcès. Et puis, le 3 septembre 1922, je ne vois pas pourquoi vis-à-vis de moi tu es confuse des éloges de Madame Leblon. Tu dois savoir que je mets plutôt les choses au point. Il s'agissait simplement de l'enthousiasme de Madame Leblon qui lisait les premiers volumes que Denise écrit dans la Bibliothèque Rose, Lettres à la littérature de la jeunesse. Je vais y revenir après. Donc, Alexandrine prend le statut de mère et de grand-mère. M'a semblé. Dès la lettre du 29 septembre 1905, elle dit aux deux, alors, votre avenir, que je voudrais le meilleur qui soit, je voudrais que vous ignoriez toujours les chagrins dont quelques-uns sont trop accablés. À la lettre du 29 septembre 1905, à bientôt, chers enfants, qui êtes le seul rayon de soleil que je puisse avoir maintenant. Je vous embrasse de toute ma profonde tendresse. Ces lettres vont se terminer toujours plus ou moins ainsi. Baiser à Jacques, bonne amitié à ta maman jusqu'en 2014 et à toi, amour de fillette, les plus tendres baisers de mon cœur. Alexandrine semble prendre le statut de grand-mère. Denise et Maurice vont avoir 3 enfants. Ils vont avoir Aline en 1909. Françoise en 1911 et Jean-Claude en 1914. Le 19 juin 1915, donc les 3 enfants sont bien là, elle termine ses lettres à partir de là par « Baiser à la maisonnée ». Le 16 juillet 1915, il paraît que Jean commence à faire la limace en se traînant sur le ventre. Lorsque vous reviendrez, il marchera seul. Le 13 septembre 1915, je t'avais demandé la longueur des robes, celle de Linotte, celle de l'amour. Après la mort de Jeanne, qui la consterne, dit-on, mais je n'ai pas les lettres, elle écrit une lettre, enfin un mot important, le 15 février 1916. Bruno, m'envoie une loge pour la matinée du jeudi, pour moi et mes enfants. Et elle souligne deux fois mes enfants. Elle suit la santé de la maisonnée. Le 31 août 1917, elle dit « Les enfants vont revenir superbes de santé. Et je pense que toi, tu t'engraisses un peu, ou du moins tu reprends des forces épuisées ces dernières années par la petite Marmaille. Marmaille que je félicite de bien se conduire. » Elle s'émeut des ressemblances avec Zola. Elle dit « J'ai reçu une gentille lettre de Marguerite avec une quantité de petites photos. C'est extraordinaire comme le petit François ressemble à ton petit Jean. Par conséquent, à Jacques et à ton cher père, j'étais toute remuée en le voyant. Elle se veut protectrice, apaisante, appui solide pendant la guerre, 14 juin 1918. Non, non, je ne te lâcherai pas. Crois-le bien, ma chérie, que j'embrasse fort, ainsi que tes petits. N'oublie pas ton cher Maurice. » Le 3 septembre 1916, en juin 1916 d'abord, elle dit « Je t'embrasse bien tendrement ainsi que la petite poussinière. » Donc la maisonnée, la poussinière reviennent très souvent. Le 3 septembre 1916, « Cela ne veut pas dire que j'accuse ma fille, dit-elle, de négligence à mon égard, comprenant fort bien que tu as des besognes un peu plus utiles et urgentes avec tes chéris. » Et le 22 juin 1918, période difficile, où Maurice est parti, on le verra, sur le front, chemin des dames. « Remets-toi, ma chérie, ne t'abandonne pas aux idées tristes, ne grossis pas les risques. » Enfin, une dernière amusante, enfin, si on peut dire, le 11 juillet 1918, elle prend parti un peu pour ce Maurice. « Je suis au courant de la venue de ton Maurice et de sa douloureuse déconvenue de ne pas t'avoir trouvé à son arrivée. Et qu'enfin, Il a eu cette horrible déception d'une lettre lui disant que tu ne voulais pas te déranger pour si peu. Si tu l'avais vu, tu aurais les plus pénibles remords. J'en avais les larmes aux yeux. Je n'insiste pas, mais réfléchis pour une autre fois. Mais, comme il disait, quand se reverra-t-on maintenant ? » C'était le 11 juillet 1918. Elle va donc donner les conseils d'une mère à sa fille. Et elle va lui donner des conseils, tout particulièrement lorsqu'elle écrit. Donc Denise va écrire pour les enfants, toute une série, donc pour la Bibliothèque Rose. Elle lui dit, tu peux t'installer au premier pour travailler, mais vas-tu travailler pendant le séjour de ton mari près de toi ? Ce ne me semble pas logique, car comme tout mari, il doit désirer vivement de ses courtes vacances, profiter de la société de sa femme le plus possible. Puis, au lieu de te livrer à un travail acharné, tu ferais mieux de te soigner. Elle n'est pas malade, mais elle semble fatiguée. Et puis, cela devient les conseils d'une épouse d'écrivain, Alexandrine, sur cette expérience, à sa fille, entre guillemets, devenue elle-même écrivain. Elle lui dit, le 27 juillet 1919, sachant que tu t'es éloignée pour pouvoir travailler, ce ne serait pas bien à moi d'aller te déranger. D'autant plus que tu m'étonnes fort en me disant vouloir finir ton travail en si peu de temps, lorsqu'il te reste les deux tiers du volume à écrire encore, en deux mois. Ton pauvre papa serait aussi étonné que moi, lui qui mettait deux années en travaillant chaque jour pour en faire un. Mais elle reprend donc le 25 août 1919. Il paraît que tu travailles fort, que tu as abattu 15 pages en 2 heures. C'est épatant. Tu peux continuer. Cela doit intéresser tes petits. Le 30 août 1919, elle assume un statut de belle-mère attentive. Elle dit, je reçois de Marguerite une lettre qui aurait pu être désespérée, car elle a vu un moment que son petit, le petit François, était mort. Et en fait, il va très bien, il va le frotter avec l'alcool coffre. Mais Alexandrine se sent fatiguée le 24 juillet 1921. Et elle dit avec autorité, non mon enfant, ne compte pas sur moi. Je refuse et me prive d'aller à Ville-d'Avray, où sont Marguerite et Jacques, ce qui est bien plus facile que d'aller chez toi. Et ce n'est pas cette température qui me fera changer d'idée. Je me demande même si cette année, je risquerai encore de me rendre à Médan. 1921. Puis, elle revient à son attention au livre que Denise écrit. Elle dit, Marie, sa bonne, le 24 juillet 1921, Marie a ramené sa fillette de chez ses grands-parents. Elle a 11 ans. Pour la distraire, je lui ai prêté ton premier volume. Elle en est ravie. Elle m'a dit, oh madame, comme c'est beau, avec un visage épanoui, lorsqu'elle aura fini, je lui passerai le second. Le 11 août 1921, tu réserves tes après-midi à ton prochain volume. Il me semble que tu es dans un état d'esprit excellent pour ton travail. Et le 11 août, toujours dans la même lettre, c'est spécial d'écrire pour les enfants. Je crois que ce doit être moins facile de se mettre à la portée de ces petits cerveaux que d'écrire pour des cerveaux formés. Le 27 juillet 1922, Alexandrine a 83 ans. Je suis contente de savoir que ton cœur est plus sage et je crois que tu ferais mieux de mesurer ton travail sans t'acharner à vouloir quand même avancer ton livre. Pour nous tous, nous préférons mieux ta santé que ta copie, quoi qu'elle ne soit guère à dédaigner. Le 27 juillet 1922, ma chérie, ne t'excuse pas de me raconter tes misères. Je suis mieux que personne apte à les comprendre. Et le 3 septembre 1922, tu me réserves toujours des épreuves bien avant l'apparition du volume. Dès que tu peux te séparer des épreuves, et je t'assure que je suis très touchée de cette attention en ma faveur. Je sais l'apprécier. Et puis, on atteint donc 1925, où elle continue à suivre très attentivement le travail donc de Denise. Elle dit, je suis étonnée par le refus d'Hachette. Ce refus d'Hachette m'ennuie beaucoup pour toi, bien que tu n'aies pas l'air de t'en soucier outre mesure, puisque tu penses placer ton livre autre part. Ce n'est tout de même pas pareil. 9 avril 1925. Bon, on a constaté avec Alain qu'elle était bien éditée chez Hachette. Ce fut un moment d'inquiétude. Le 19 avril 1925, donc elle a 86 ans, elle va mourir le dimanche 26 avril, donc on est à 7 jours de sa mort. Elle est toujours aussi active. J'ai aussi reçu la gentille... Enfin, dans sa correspondance, du moins. J'ai aussi reçu la gentille carte des petits, à laquelle je n'ai pas répondu, parce que la veille, j'avais prié leur papa de leur transmettre mes très tendres baisers. En fait, dans cette correspondance, dans cette transmission, j'ai rencontré donc toute une liste de personnalités dont notre enfance, notre adolescence a été bercée. En fait, ces noms nous étaient devenus très familiers. Donc, j'ai relevé une liste qui ressemblait un peu à l'Italie, mais enfin, assez rapidement, je vous dis. J'ai relevé notre bon Bruno, qui revient très, très souvent, Georges Charpentier, l'éditeur, et puis Marguerite, Georges Toudouze, Lessiménoff, Jeanne Dutard, qui épouserait plus tard, donc fils de Charpentier, Picard, une lettre seulement, Gabriel Monod, Octave Mirbeau, Fernand Desmoulins, Théodore Duret, José de Charmois, Gustave Kahn, Paul Gallimard, Jean Perrin, Ernest Picari, Jean-Baptiste Imbaye, Charles-Henri Pourquet, Ernest, ça chronologiquement, hein, puisqu'on arrive vers la dernière lettre, avec Ernest Gider, on en parlera dans les événements, Henri Barbus, Franz Jourdain, l'architecte, Edmond Goncourt, Marcel Batilla, Raoul de Saint-Armand, un dernier mot qu'elle dit, Paul Brulat. Voilà. Donc, elle va entretenir dans la culture de Denise et de Jacques ses relations insistantes pour qu'ils connaissent ces personnalités qui rentrent dans cette culture. C'est donc son amour pour cela qui va la conduire à construire un espace familial solidement pour qu'il survive cet espace. Et on est bien là pour le prouver, pour qu'il survive après sa mort, puisqu'il y a encore beaucoup de petits enfants que nous avons tous. Parce que Martine m'a dit que mon dernier Vendry était le numéro 26 de la génération. Donc Zola serait content. Elle va donc construire notre famille à travers un contexte culturel et historique particulièrement riche qui nous ferait voir ses lettres de 1904 à 1925 comme un journal présentant la période qui précède la guerre, la période 14-18, et puis celle qui suit la guerre. Mais je me suis souvenu de la communication d'Olivier Lambrosson sur les cahiers naturalistes de 2015. J'ai compris, au fond, c'est un peu ça qui me gênait. Une succession chronologique de lettres n'est pas un journal, car on trouve deux destinataires, Denise et Jacques. On trouve mes chéris, c'est-à-dire une grande tendresse, qui peut s'expliquer par votre père se continuant en vous. J'ai l'impression que cette succession d'événements était choisie consciemment ou inconsciemment par son cœur et sa volonté à faire partager pour éduquer, élever, construire, et non pour répondre à notre curiosité. Bah, que se passait-il à Paris en 14-18, par exemple? Ce n'était pas ça, évidemment, l'objectif. Donc, on arrive au deuxième axe et on va changer le titre. Eh bien, on va dire une référence à une succession d'événements. Alexandrine tient Denise au courant et cherche à l'introduire dans un réseau de relations. Bon, elle semble retenir certains noms, on a vu lesquels. Mais elle va retenir des événements petits et grands, familiaux et historiques, qui vont être sélectionnés par son cœur. D'abord, on va retenir, ben, je n'ai pas tout retenu, ce n'est pas possible, mais c'est très riche, hein, finalement, cette correspondance. Donc, la vente annuelle de la pouponnière, qui est une œuvre que Marguerite Charpentier fonde en 1891, qui est une sorte de société pour mères célibataires, pour une société maternelle, on ne disait pas ça, on disait une société maternelle parisienne, à laquelle les Zola s'intéressaient. Et Marguerite Charpentier, donc, va décéder le 30 novembre 1904. Elle est l'épouse de l'éditeur Georges Charpentier, et ils vont avoir 4 enfants. Ils vont perdre 2 garçons, comme on sait, et c'est des filles qui survivent. Alors, ça l'est du 16 décembre 1904. Elle part de cette vente, la pouponnière. Lettre, donc, notre vente est finie et j'en suis ravie, car je me sens très fatiguée. Je crois qu'elle a bien marché. On procédera à la nomination d'une présidence. Une présidente, ce ne sera encore une triste séance, le remplacement de notre pauvre Marguerite. Madame Mirbeau, donc c'est l'épouse d'Octave Mirbeau, Mirbeau, donc à cette époque, qui va être constamment malade à partir de 1908, et qui s'est donc mariée avec Alice Regnault. Et elle dit, Madame Mirbeau, avant de partir pour Berne, m'a donné 40 francs pour l'œuvre. Elle m'a dit de lui acheter un coussin. Le tien a été par Jeanne Dutard, fille de Charpentier, qui est épousée Henri Dutard. Et Zola a été leur témoin. Donc, elle a marqué ce prix de 40 francs. Alors, je l'ai mis de côté pour Madame Mirbeau. Je pense que, sachant qu'il a été brodé par toi, il leur fera plaisir. La lettre du 14 octobre 1905. Place-moi des billets de la pouponnière. J'en ai redemandé à Madame Dutard. La lettre, et à chaque fois ça revient. Lettre du 21 novembre 1905. Tu es un bijou de me placer les billets de la pouponnière. Donc on voit beaucoup d'énergie. Et puis on a la réhabilitation de Dreyfus et de Picard par la lettre du 11 juillet 1906. 9h du soir. Elle écrit 9h du soir. Ma chérie, Maître Mornard m'envoie un bleu. Là, on est dans le quotidien de cette époque. Les fameux petits bleus qui arrivaient en moins de 2 heures depuis 1879. Donc, la technique des petits bleus, où il y avait une carte du réseau des souterrains, comme il y a une carte du réseau métropolitain. C'est assez amusant à voir. Donc, elle m'envoie un bleu m'annonçant que l'arrêt sera prononcé demain. Je ne manquerai pas d'aller à la cassation, ainsi que ces derniers temps. Si l'arrêt s'en renvoie, j'aimerais que nous en soyons réjouis ensemble, tout en regrettant votre pauvre et cher papa qui avait bien mérité d'assister à ce triomphe. On a donc le transfert ensuite au Panthéon des cendres de Zola. C'est la lettre du 23 juillet 1906. Alors, c'est une des longues lettres. Elle a des lettres qui vont 6 pages. enfin, de ce format un petit peu comme ça. Donc, elle fait 6 pages, cette lettre, à ce propos. Elle l'écrit depuis le Chalet des Piques au Mont d'Or, où elle fait 5. Denise a 17 ans, Alexandrine 67 ans. Et elle répond à une lettre de Denise. Je n'aurais nullement l'idée d'objecter quoi que ce soit à ta pensée qui avait senti comme moi un déchirement profond en songeant que l'on allait nous enlever votre cher papa. Tu n'as pas idée, ma fillette chérie, combien ta réflexion m'a été au cœur. Le tien et le mien ayant éprouvé en même temps la même douleur, le bien que j'en ai éprouvé, le regret de ne pas pouvoir pleurer avec toi, de ne pas être à même de courir à toi pour te presser sur mon cœur très fort, m'a été une souffrance horrible. Elle termine en disant « Je ne puis t'aimer plus que je t'aime. Sans cela, je t'aimerais davantage à cette heure. » Et suivent des hommages à Zola. « Je sais bien que, comme moi, tu es heureuse des honneurs que l'on peut lui rendre. Et je trouve qu'on ne l'en fera jamais assez. Quoi qu'on fasse, j'ai toujours estimé comme le plus grand parmi les grands. On peut lui en rendre chaque jour. Il les a bien mérités par sa vie de travail, par son amour pour son pays et pour l'humanité entière. » La gloire, ce ne sont pas les hommes qui vous la font. On se la fait soi-même. Vous en êtes témoin par votre cher père. C'est lui-même qui s'est fait un monument impérissable par ses œuvres et ses actes. C'est pourquoi, si je ne pensais qu'à moi, je le garderais, notre cher mort. J'ai le besoin de nous dire tout cela, puisque nous sommes en communion d'idées. Et à la fin de ces 6 pages, merci du bon souvenir de ta maman. Je lui envoie mes amitiés. Je pense qu'elle aussi partage nos idées. Toujours la volonté de rapprocher Jeanne Rosereau dans cette communion de pensées et d'idées. Le 2 juin 1907, ma chère mignonne, à midi, j'ai vu des moulins venant de chez Clémenceau. Des moulins à 54 ans à cette époque. Il va mourir en 1914. Il vient de chez Clémenceau, qui m'a annoncé, donc j'ai eu des moulins, qui m'a annoncé ce que j'avais lu dans les journaux à 8h du matin. On voit l'activité hein, d'Alexandrine, qui tôt le matin, tard le soir, est toujours dans la correspondance ou la lecture de la presse. Il m'annonce que le transfert des cendres de votre cher papa aura lieu dans la seconde quinzaine de ce mois. C'est une chose officielle. Mes 3 amis sont chargés par le ministre avec Dujardin Beaumetz, qui était un artiste peintre, mais qui était sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts de janvier 1905 à janvier 1912. Donc, Dujardin Beaumetz pour préparer cette cérémonie. Tantôt, j'ai vu Bruno chez Madame Julien. On jouera du Messie d'or, naturellement. Clémenceau a dit qu'il voulait qu'il y ait beaucoup de musique. Un seul discours sera prononcé par Briand, qui était le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes en janvier 1908. La veille du jour, elle rajoute, la veille du jour, nous irons en petit comité chercher votre incomparable père et nous le mènerons au Panthéon, qui nous devons le souhaiter, sera sa dernière et glorieuse étape. Lendemain, nous devons le considérer comme un jour de gloire, son apothéose. Souvenez-vous, ce n'est pas son pays qui l'honore, c'est lui qui honore son pays et qui doit être fier d'avoir eu un pareil homme parmi ses enfants. Car de semblables se comptent, car ils sont rares. Elle continue, je tenais à ce que vous soyez au courant de ce qui a été fait. Et dit ce matin, sans attendre à mardi, elle veut que ce soit elle, bien sûr, qui fasse sa transmission. Ces choses vous touchent trop pour que je vous les laisse ignorer. Et ça me fait du bien d'en causer avec vous, mes chéris. La lettre du 23 octobre 1907 dit, elle dit à Denise, dit à Desmoulins. Pourquoi ? Parce que Denise suivait les cours de dessin dans l'atelier de Desmoulins. Il y a une peinture que j'ai chez moi, donc on la voit toute jeune devant un tableau qu'elle est en train de faire dans l'atelier de Desmoulins. Dit à Desmoulins que j'ai écrit à Briand. Je choisirai les premiers jours d'avril pour le transfert. Je lui demanderai audience à mon retour pour arrêter une date fixe. Le 9 novembre 1907, elle dit, je lui dirai justement d'aller voir Briand pour poursuivre notre idée de mettre les morts dans la grande salle du Panthéon, qui n'est plus une église, pour les enlever de cette chose odieuse, de ces caveaux sous terre. Car je voudrais bien que votre cher papa n'y descende jamais. Et comme nous avons des mois devant nous, on peut organiser cela. Et alors, m'est revenu à la mémoire, tous ces 1er novembre, où nous descendions tous dans le caveau, dans les caveaux du Panthéon. C'est vrai que pour nous, c'était un moment de familial, et on était plutôt heureux de se retrouver tous pour apporter des fleurs à Zola. Mais en y repensant maintenant, et en pensant à ce qu'elle dit, c'est vrai que ces descentes dans l'ombre, dans le noir, dans les sous-sols, alors qu'il y a cette magnifique tombe où on peut aller, quand on veut, la tombe de Zola, par Franz Jourdain et avec le beau buste de Solari, c'est vrai que ça a dû être épouvantable, et c'est vrai que c'était, sachant qu'en plus, Zola avait une obsession de l'enfermement, de l'intérieur, tout ça venait se conjuguer. Et ça me revient très fortement. Et puis, il y a la guerre de 14-18. Donc le 22 mai 1914, Jeanne Roseroy a subi une opération. Elle meurt donc le 22 mai à 47 ans, très jeune. L'ordre de mobilisation générale, c'est le 2 août 1914, très peu après. Alexandrine, au moment de la mobilisation, elle est à Royat. Et Denise, elle est à Clamecy, à la sous-préfecture, car son mari a été nommé sous-préfet depuis novembre 1908. Et normalement, 1913, s'arrêtait sa mission de sous-préfet. Mais, Denise a été la plus jeune femme de sous-préfet de France à ce moment-là. Elle était toute jeune. Denise reste à Clamecy, nous dit Alexandrine, vu la situation à Paris. Nous sommes en 14. Alors, on va voir que les lettres de 14 sont, évidemment expriment vraiment cette difficulté de l'époque. La lettre du 27 août depuis Royat. Malgré les bruits les plus sinistres qui courent ici, je vais tâcher de gagner Paris pour mettre un peu d'ordre dans différentes choses chez moi, si je puis rentrer à Paris, car on prétend qu'on ne me laissera pas rentrer. Nous sommes le 27 août 1914. Entre le 20 et le 23 août, plus de 40 000 soldats français avaient été tués, dont 27 000, la fameuse journée du 22 août, la journée, dit-on, la plus sanglante de l'histoire militaire de la France. Donc, elle écrit ce 27 août. Les bruits les plus sinistres courent. Je voudrais avoir les papiers, récupérer en fait les papiers que je trouvais inutile d'emporter à Royat. Mettre à l'abri, si je puis, le portrait de ton cher père par Manet et autre chose différente qui me tourmente. Elle rajoute, les blessés ici à Royat afflue fortement et on a le cœur déchiré de voir des hommes jeunes entourés de bandelettes ainsi que des momies. D'autres sont forqués et ne demandent qu'à retourner au feu. Un peu plus loin, Pierre Dreyfus a été promu sergent à cause de sa belle conduite dans l'Est. Son père, le commandant Alfred Dreyfus, a un fort à Vincennes. Il s'est réengagé et Mathieu, le frère d'Alfred, s'est aussi engagé dans l'Est. Paul Valabrègue est à Toulon. Le 2 septembre 1914, le président de la République, Raymond Poincaré, va faire publier un communiqué de presse. Donc Paris va être bombardé, il y aura un bombardement le 29 août. Et la décision a été prise que le gouvernement déménage à Bordeaux. Lettre du 17 octobre 14, retour d'Alexandrine par le train. En fait, tout le monde quittait Paris. Mais Alexandrine revenait, elle, à Paris, son aspect résistante. Alors évidemment, elle dit, j'ai eu un bon coin, car nous n'étions que quatre dans le train, tout au long du chemin. Je suis arrivée à 8h15, et vite, j'ai été chez moi. Évidemment, tous partaient, elle arrivait. Mais elle a connu la guerre de 70 à Paris. Enfin bon, c'est une résistante. Jean Perrin est venu la voir aussitôt. Alors, Jean Perrin, bien sûr, il a alors 44 ans. Il a été nommé professeur de chimie physique à la faculté des sciences de Paris, où il va enseigner pendant 40 ans. Et il mourra en 1942 à New York. Donc Perrin m'a chargé, et encore une fois, c'est les relations et la transmission, m'a chargé de ses bonnes amitiés pour toi, pour ton mari. Il a repris son cours, un à l'avenue de Saint-Ouen, l'autre à la rue Marbeuf, le lycée étant pris par 120 blessés. Solari est venu hier matin, hier, savoir si j'étais rentrée. Et Madame Perrin arrive demain. La lettre du 31 octobre 1914. Restée chez moi hier toute la journée, donc à Paris, à faire des nettoyages de tiroirs. J'étais tellement lasse que je n'ai pu t'écrire. Denise, elle, a rejoint son mari à Bordeaux. Elle lui dit, je doute beaucoup de votre retour pour le 15 novembre. Les Parisiens ne tiennent nullement à voir le gouvernement rentrer tant que les Prussiens seront chez nous. Ici, on parle de décembre à cause du budget. On dit qu'il faut parfaitement régler cette question à Bordeaux. Pour vraiment dire, personne ne sait rien, ni à Bordeaux, ni à Paris. Toutes les bonnes retournent plus ou moins, enfin c'est bon, quittent en général leur maître pour avoir des métiers plus meilleurs. Et donc elle n'a plus qu'une seule bonne. Avec ma seule bonne, je suis obligée de m'occuper pas mal de mon intérieur, ce qui me laisse bien peu de temps pour préparer ces paquets pour les soldats, ces pauvres gens qui nous défendent avec tant d'ardeur et dans de si terribles conditions. On voudrait tant les soulager. Le 15 novembre 1914, ainsi que je le prévoyais, la rentrée du gouvernement ne peut avoir lieu en ce moment. Notre ennemi est encore trop proche de la capitale et pas assez chez lui. Madame Renan Psicari a son fils aîné Ernest, tué depuis le 22, elle écrit le 22 août. Vous vous rappelez, c'est cette fameuse journée, le 22 août, 27 000 tués durant la journée la plus sanglante de l'histoire militaire à Rossignol. Donc, Ernest Psicari a été tué le 22 août. Elle vient seulement d'en avoir la nouvelle. Où est-il? Personne ne le sait. Où a-t-il été enterré? Probablement, il ne l'a pas été. Donc, pourquoi Renan Psicari? Parce que, Madame Psicari est la fille du philosophe Ernest Renan, qui est mort en 1892, à 69 ans. Noémie Renan a épousé Jean Psicari, professeur de philologie à l'école pratique de hautes études, mais elle vient sans doute de divorcer, ils vont divorcer. Et donc, elle lui redonne, donc elle reprend son nom, Renan Psicari. Donc, tout ça pour la transmission culturelle, le réseau. Lucie Dreyfus est du matin au soir à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, à soigner les blessés. Et Madame Adamar, l'épouse de Jacques Adamar, qui est également un grand scientifique, donc Madame Adamar a monté un ouvroir. Elle achète des marchandises et elle fait travailler des ouvrières pour qu'elles puissent manger. Donc, Adamar, qui est donc une grande famille juive française, et la femme de Dreyfus, Lucie Dreyfus, était la fille de David Adamar, un cousin de Jacques Adamar. Ensuite, elle termine en disant « Madame Perrin fait force chaussettes pour les blessés ». Toutes ces dames sont au travail. Et elle dit, j'irai mercredi déjeuner chez les amis Huret. Donc Jules Huret, qui était ce journaliste célèbre pour son enquête sur l'évolution littéraire. Il avait interviewé, si on peut dire, interrogé 64 écrivains dans Émile Zola. Les amis Huret, qui sont bien en peine, car ils connaissent les quantités de personnes qui perdent des êtres chers. Elle dit encore, j'ai vu Madame Albert Clémenceau hier. Les deux frères de Georges Clémenceau ont repris du service, malgré leur âge. En effet, Albert Clémenceau, qui est né en 1861, a 53 ans en 1914. Et la lettre du 1er décembre 14, Alexandrine s'étonne. Comment peux-tu croire que votre rentrée définitive est si proche avec ton mari, près du gouvernement, qui doit bien te dire que nos ennemis sont encore trop chez nous pour songer à une date prochaine pour un retour de nos hommes d'État? Je pense, dit-elle, que si Viviani, qui est le président du Conseil, a besoin de Maurice, Maurice est chef de cabinet à ce moment-là, lorsqu'il va venir pour le budget, peut-être tu pourrais l'accompagner, car leur séjour ici ne sera sans doute que de 48 heures. J'ai vu Madame Fasquel, elle est rentrée à Paris. Elle voudrait être occupée dans une ambulance pour soigner les blessés, ainsi qu'elle faisait à Biarritz. Son mari va tâcher de la faire rentrer à Chaptal. Les boutiques rouvrent de plus en plus. On est en 1914. Bon. Les théâtres se hasardent aussi pour tâcher de faire vivre les pauvres petits artistes qui meurent de faim par manque de travail. Et le secrétaire de l'association Émile Zola fait un appel pour qu'on loge ceux qui le peuvent, les instituteurs, les professeurs, les étudiants belges. En 1915, Alexandrine a 76 ans et elle déploie toute son énergie pour les soldats. Elle envoie à Denise la carte de la croisade des femmes françaises, une association qui réunit les personnalités, les femmes les plus différentes et qui ont répondu à l'appel de Viviani du 2 août 1914. Elle dit « J'ai été faire une grande distribution de mouchoirs, de savons, de cigares hier à Chaptal avec l'un des professeurs, M. Parmentier, et Annie de Jean Perrin. » Le 16 janvier 1916, la vie des spectacles tente de reprendre. Elle dit « Le concert a commencé à 3h dans ce quartier de Montrouge. Les tramways étaient complets, mais il y a pénurie de voitures. » Février 1916, Bruno m'envoie une loge pour moi et mes enfants. On commencera par le deuxième acte d'Aïda. L'ouragan vient ensuite. Jacques, s'il le pouvait, ferait bien de venir assister au moins à l'ouragan. Ce serait son devoir, aussi bien souvenir de son père que poli pour les Bruno. Et le 26 juin 1916, dès que tu pourras me donner des nouvelles de ton mari, tu me feras très plaisir. Le 20 septembre 1916, elle annonce la naissance de notre cher Lys Puot, que nous avons bien connu. Donc ça, c'est le regard familial qui est assez ému, quoi, de voir ces annonces de gens qu'on a connus. Lettre du 19 août 1916. Est-ce possible que l'on fasse marcher des hommes quand même harassés au point de tomber dans les chemins? Le 3 septembre 1916. Tu sais que je suis plutôt optimiste. Mais je ne pense pas que la guerre puisse se finir avant une grande année encore, malgré les événements qui viennent de surgir. Et puis, l'année 17, on est toujours en guerre, mais elle est marquée par la préparation du mariage de Jacques et Marguerite, le 5 février 1917, et par la naissance de François, le 6 novembre 1917. Elle parle moins de la guerre dans les lettres que je possède. Cependant, Maurice est sur le front, à Croanne, vers le chemin des Dames, fameuse, dans les tranchées, et le 31 août 1917. Tu ne me dis rien de la santé de Maurice, à part les puces et la boue, il doit aller bien, heureusement. Le 10 septembre 1917, ce n'est pas drôle de penser à Maurice si près du danger. On annonce un hiver effroyable, jolie perspective. Espérons que le gouvernement, qui ne marche guère, pourra obvier à un tas de choses. L'année 18 à Paris. Lettre du 14 juin 18. Depuis 8 jours, nous avons fait nos nuits entières. Et chaque soir, on souhaite que la prochaine nuit soit encore ainsi, bien que l'on s'attende à être réveillé. Ici, on a manqué de pommes de terre, mais les voici revenus. On dit toujours que les prix vont baisser. Jusqu'ici, rien ne le prouve. Crois-tu qu'ils s'arrêtent, ces boches? Personne ne peut avancer quand ça se terminera. Les Américains viennent, mais tous ne sont pas là encore. Non, non, je ne te lâcherai pas. Crois-le bien, ma chérie. Le 22 juin 1918, j'ai reçu une très gentille carte de Maurice. Sûrement, je comprends toute ton angoisse d'être ainsi sans nouvelles, le sachant, ton cher mari dans la mêlée. Éloigné, on s'imagine toujours que les dangers sont un peu plus forts. Enfin, le voici au calme relatif. Je t'ai dit que Jean-Baptiste Dambaye était décédé, 3 semaines après le jour où je devais me rendre à son invitation. Et le 2 juillet 1918, on a l'air d'être au calme. Que se prépare-t-il? Ce sera grave, dit-on. La lettre du 11 juillet. Maurice m'a dit qu'il allait pouvoir entrer dans un staff major pour le service téléphonique. Oui, ce sera de la tranquillité pour nous tous. Et le 26 juillet 1918. Plus de Gotha ni de Bertha depuis une quinzaine. N'est-ce qu'un répit? Les voitures américaines de toutes sortes la nuit empêchent de dormir. Ou bien on est réveillé en sursaut, ce qui est bien désagréable pour les secousses au cœur. Lettre du 1er août 1918. J'espère que c'est fini des Bertha et des Gotha, les avions Gotha et la grosse Bertha. Et le reste serait encore mieux pour nos pauvres chers soldats dans une pareille température. 1er août 1918. Le 24 août 1918. Oui, on est un peu au calme. Cependant, on les attend, dans la crainte d'être réveillés en sursaut. l'autre, je ne sais pas de quoi elle parle, ne vient plus. C'est déjà bon. La dernière fois, je me souviens que j'ai déjà failli la recevoir près de la rue de la Paix. Une bombe, je ne sais pas. Lettre du 13 septembre 1918. Les nouvelles de la guerre sont bonnes. Quoi qu'il y ait, semble-t-il, du tirage avec la fameuse ligne. Je n'ai plus de lettres ensuite parlant de la guerre. Les événements qui suivent sont d'ordre familial ou littéraire. J'en ai retenu quelques-uns. La référence à Charles-Henri Pourquet dans sa lettre du 27 juillet 1919. J'étais jalouse de M. Pourquet. Je commençais à trouver le temps long sans nouvelles. Il avait déjà lu une lettre de Maurice. Donc Pourquet et Maurice Leblond ont le même âge. Pourquet est connu pour son succès après la Première Guerre mondiale, sculpture de poilus et monuments aux morts. Maman m'en parlait. Elle me disait, quand on se promenait avec mon père, on s'arrêtait à tous les monuments aux morts lorsqu'on voyageait. Son ami Pourquet. Dans cette lettre, le mariage de la fille de Madame Béranger. Alors, elle nous dit, dans cette nécropole de la Madeleine, il y faisait noir comme dans un four. Et après, elle décrit, là, bon, c'est noir, c'est sombre, c'est triste, et ça m'a rappelé le bel ami de Maupassant, le mariage sur la Madeleine. Lettre du 29 août 1919. Elle exprime son indignation. Non, je ne suis pas souffrante. Je crains que si je l'étais, je ne penserais plus à mes maux devant cette affaire Judet. Ernest Judet, qui est le directeur du petit journal, dès 1907, soupçonné de recevoir des subsides allemands, va être inculpé de trahison en 1919 et condamné par contumace en 1923. Judet, dit-elle, à qui je souhaite 20 ans de bagne, aussi cruel que celui supporté par le colonel Dreyfus. Qu'y a-t-il sous cette affaire ? Le 19 novembre 1920, je suis fatiguée. C'est pour cela que je ne vais pas te voir. Mais elle va rester active et, je dirais, femme d'affaires. De 1920 à 1925, elle nous parle de Bruno, de la mort de la mère de Numacoste, de Franz Jourdain, de ses rapports très tendres, dit-elle, avec les Fasquelle, de son indignation en 1921 pour Séard, qui va se faire vice-président des amis de Copé, de Deschanel, qui a perdu sa belle-mère d'un cancer à l'estomac. Elle dit, on n'entend plus parler que de cette maladie, de la tuberculose et des demi-fous, en parlant de Deschanel, qui est descendu du train. Du journal des Goncourt, de Henri Fuss Amoré, de Marcel Batillat, qui se rend dans la ville plusieurs fois, où se trouve le couple Maurice et Denise et les enfants. Enfin, le 26 septembre 1923, après une première congestion cérébrale, elle dit « Ma première nuit a passé sans les cauchemars habituels qui me fatiguent horriblement. » Elle se remet et elle écrit le 22 juin 1924 « J'ai parcouru hier soir tous les journaux. » Tous les journaux. Je te les retourne tous afin que Maurice n'attende pas. Et la lettre du 9 avril 1925, elle se montre encore femme d'affaires pour les écrits de Denise. Jusqu'au bout, énergie, sociabilité, délicatesse. Je terminerai par une synthèse en quelque sorte. Le regard familial, en fait, ne peut être qu'un regard d'admiration, de gratitude sur cette femme hors du commun, qui est notre aïeule. Une femme qui est sans préjugés, qui recherche toujours les qualités de cœur chez les autres et qui cherche à les développer chez ceux qu'elle considère comme ses enfants, mais pas de façon possessive. Elle dit avec Jeanne Rose-Rose, « Nos enfants », dit-elle sans cesse. Et c'est une femme énergique jusqu'à la fin. Et intelligente au sens latin du terme, c'est-à-dire qu'elle va relier les événements, les gens, les comprendre. Et dont la ligne de conduite était, une belle phrase qu'elle dit, « Avant soi, il y a les autres. C'est mon système, tu le sais. » Lettre à Denise du 8 décembre 1908, « Avant soi, il y a les autres. C'est mon système, tu le sais. » Une femme, en fait, qui ne revendique pas des droits, mais qui nous rappelle nos devoirs. Et familiaux, bien sûr. Voilà, j'espère que...
Merci infiniment, Violaine, pour ce magnifique exposé. Enfin, moi, je suis passionnée, enthousiasmée par ce que tu viens de dire, avec beaucoup d'intelligence, de finesse, je trouve, et je suis vraiment très heureux que nos séminaires désormais soient enregistrés, enfin on pourra réécouter toutes les informations que tu donnes, et j'espère que plus tard, tu pourras donner une synthèse sous la forme que tu voudras dans les cahiers naturalistes, plus ou moins longues, ça c'est toi qui le décidera. Vraiment, moi j'ai noté toutes sortes de questions, et il me semble que tout autour de la table, vous avez sans doute plusieurs questions à poser à Violaine Monroe. Donc, vraiment, il faut que la discussion s'ouvre sur ce personnage étonnant d'Alexandrine, de Denise aussi, qu'on découvre, car on découvre deux intellectuels, Alexandrine d'un côté, et puis Denise Aubert, l'écrivain, la romancière, dont les romans, d'ailleurs, peuvent encore se trouver sur Internet assez facilement, car ils ont été largement diffusés, étant des romans de la Bibliothèque Rose de chez Hachette. Et comme le nom de Aubert ne renvoie pas à celui de Zola, pour ceux qui font des recherches, ce sont des romans qu'on peut acheter pour quelques euros souvent. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce sont des romans passionnants. Mais je laisserai la parole sur ce sujet à Jean-Sébastien Mas, qui a consacré un article il y a quelques années à Denise Aubert, romancière, à l'occasion, je peux le dire, d'une cérémonie que nous avions conduite à Clamecy. Tu as évoqué Clamecy, cet endroit où Maurice Leblon et Denise Émile Zola arrivent en octobre 1908, donc on est quelques mois après la panthéonisation de Zola. Ils viennent de se marier, elle est la plus jeune sous-préfète de France, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'elle a 18 ans, elle vient d'épouser Maurice Leblon, qui était avant l'attaché de cabinet de Clémenceau, c'est grâce à Clémenceau d'ailleurs que Leblon obtient cette sous-préfecture. Eh bien, c'est à Clamecy, en effet, que Denise va devenir écrivain, romancière. Et donc, il y a quelques années, je le disais, on avait, grâce à la municipalité de Clamecy, qui voulait rendre hommage à Denise Aubert, ou Denise Zola, ou Denise Leblon, on avait participé, un petit nombre d'entre nous, à une cérémonie de commémoration. Je crois qu'une plaque se trouve aujourd'hui, à la suite de cette cérémonie, sur la grande place de Clamecy, et un ouvrage en est sorti avec des communications que nous avions faites les uns et les autres. Et cet ouvrage, je te laisserai en parler, Jean-Sébastien, c'est Jean-Sébastien qui l'avait édité. Voilà, je m'arrête juste un mot peut-être pour dire, car tu aurais pu l'évoquer en commençant, qu'aujourd'hui Alexandrine bénéficie d'une très belle pièce de théâtre.